Nous allons maintenant voir quelques exemples concernant la prophétie de la fin des temps. D'abord, le retour des Juifs accompli déjà dans l'époque de 1882 jusqu'à 2011. En Ézéchiel 36, 24, Dieu dit au peuple juif, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Eh bien, nous sommes des témoins oculaires de ce fait que depuis 1882 jusqu'à 2011, plus de 3 millions de Juifs sont retournés des 5 continents du monde de plus de 100 pays différents pour aller au pays des ancêtres, comme cela a été prophétisé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, longtemps avant la destruction de l'État juif à l'an 70 après Jésus-Christ, où la dispersion mondiale a commencé. Deuxième prophétie, le pays transformé. De nouveau, 1882 à 2011. Ézéchiel 36, toujours le même texte, mais un peu plus loin, dit au verset 34, « Et le pays désert sera labouré. Au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants, et ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. » Eh bien, le pays d'Israël était un pays de toute beauté et un pays fructueux qui ruisselait de lait et de miel. Mais, n'est-ce pas, la prophétie avait déjà prédit que le pays d'Israël changera pendant la dispersion des Juifs en un désert. Et d'ailleurs, le point culminant de ce processus vers un désert était au 19e siècle. Et dans les années 1860, c'était Mark Twain qui a fait une visite en Palestine. Et dans son livre « Innocents Abroad », il décrit le pays. Il dit « Il est très peu peuplé ». C'est un pays sans perspective, sans espoir brisé. Voilà. Et lorsque les Juifs ont commencé à retourner quelques années après Mark Twain, ils étaient confrontés à un désert. Alors, puisqu'il y avait beaucoup d'intellectuels à l'époque qui venaient de la Russie, ils ont compris, nous devons devenir des paysans. Et voilà, ils ont construit des kibbutz, des moshavim, etc., pour travailler, labourer la terre. Comme il est dit, et le pays désert sera labouré. Au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants, comme devant les yeux de Mark Twain, par exemple. Et voilà, on a planté à peu près 240 millions d'arbres. Ce qui a changé aussi le climat, c'est logique. Et on a établi une agriculture fantastique de premier rang à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Israël produit par an 1,3 milliard de fleurs pour être coupées. Donc Israël fait l'exportation de fleurs. Aujourd'hui, j'ai parlé une fois de ce sujet en Hollande. Alors, j'ai dit, Jullie bent niet alleen, vous n'êtes pas seul à faire cela. Israël, maintenant, fait la même chose comme vous. Donc, c'est vraiment comme ça, lorsque des visiteurs viennent une première fois en Israël, ils voient le pays, ils doivent attester ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. Donc des villes de l'Ancien Testament sont maintenant des villes modernes avec de la vie. Troisième prophétie, le but des ennemis, c'est exterminer Israël. Donc la Bible a prédit, les Juifs vont retourner, mais les pays autour d'Israël vont essayer d'exterminer Israël. Et dans ce psaume 83, les noms de différents peuples autour d'Israël sont mentionnées. Et voilà, je lis le texte à partir du verset 1er. « Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Le 14 mai 1948, Israël comme État a été fondé. Mais les pays musulmans autour d'Israël avaient déjà annoncé « Si on va construire un État juif, on va le détruire dès le début. » Et voilà, la suite était la guerre de 1948 à 1949 où environ 8 armées sont allées ensemble contre Israël, qui à l'époque avait d'abord presque pas d'armes lourdes. Et voilà, à peu près 8 armées avec des armes lourdes sont allées contre Israël pour les exterminer complètement. Mais après un an de guerre, Israël a vaincu. C'était un miracle. Alors on s'est dit, mais on va le faire encore une fois. Et lorsque, après des années où l'Union soviétique a envoyé des armes excessivement modernes à l'époque aux pays autour d'Israël, la conviction était vivante en 1967 que le moment est apparu pour détruire Israël avec succès. Et encore en mai 1967, Nasser, président de l'Égypte, avait annoncé « Notre but principal, c'est d'exterminer Israël ». Et voilà, en juin, la guerre des six jours, après six jours du silence sur les trois fronts. Et on s'est dit, il faut refaire cela, mais sans que Israël puisse se préparer. C'est pour ça, en 1973, la guerre du Yom Kippour a déclenché. C'était une guerre affreuse, où un jour où on ne s'attendait vraiment pas à une attaque, les ennemis autour d'Israël ont essayé de terminer l'existence d'Israël. Mais malgré que le plus de juifs a été tué dans cette guerre, après quelque temps, Israël a de nouveau vaincu. Mais c'est exactement ce langage. Ils ont dit, venez, exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voilà, après tous ces exemples, en rapport avec 300 prophéties messianiques, 200 prophéties de Daniel, 160 prophéties sur la fin des temps, n'est-ce pas? Comme ça, on a déjà une belle collection. Mais c'est seulement un choix. On pourrait continuer la prophétie sur la ville de Tyr, la prophétie sur... etc. Mais ça suffit, ça suffit. Pour amener maintenant l'argument vers numéro 4, la preuve prophétique et mathématique de Dieu. N'est-ce pas? Il y a toujours des sceptiques qui disent « Oui, mais l'accomplissement de ces prophéties-là sur Israël, c'est du hasard. » Eh bien, il faut réfléchir au lieu de parler. Vous voyez ici un dollar. Alors, quelle est la probabilité, en jetant le dollar, qu'on verra sur le sol la tête du président Kennedy? Eh bien, il y a deux possibilités, soit à l'envers, et soit la tête. Donc, la probabilité est 1 divisé par 2, 50%. Mais si on dit, mais je veux jeter trois fois, ou deux fois d'abord, deux fois, et je vais avoir chaque fois la tête de Kennedy, quelle est la probabilité? Eh bien, pour ça, nous avons une formule en mathématiques. Ça fait dans ce cas 1 divisé par 2 puissance n. N, c'est le nombre de fois où nous faisons cet essai. Donc, dans notre cas, deux fois. Donc, 1 divisé par 2, puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 2 fois 2, 4. Donc, la probabilité pour avoir deux fois la tête de Kennedy est 1 divisé par 4. 25%. C'est tout simple, n'est-ce pas? Eh bien, si on veut appliquer ça à la prophétie, j'aimerais savoir quelle est la probabilité pour 78 prophéties. Et là, je suis très gentil, parce que je ne dis pas, oui, alors, la probabilité, par exemple, que les Juifs retournent du monde entier au pays des ancêtres, ce n'est pas 1 divisé par 2, n'est-ce pas? Parce que dans l'histoire humaine, on n'a même pas un parallèle. La probabilité n'est pas très grande, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord pour mettre pour chaque prophétie une probabilité de 50%. Alors, pour 78 prophéties, on fait le calcul, 1 divisé par 2, puissance 78. Et voilà, ça donne donc la probabilité que vous trouvez ici, 2 fois 10, puissance moins 24. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas s'imaginer par notre tête ce que ça veut dire. Il faut des exemples pour ça. Eh bien, la Terre a une surface de 510 millions de kilomètres carrés, avec les océans, n'est-ce pas? Et maintenant, imaginez-vous, toute la Terre est couverte de fourmis noires, à une épaisseur de 10 mètres. Toute la Terre. Et maintenant, je vais mettre une fourmi rouge dedans. Et je vous donne la chance d'essayer une fois de mettre votre main n'importe où dans les fourmis et vous tirez un fourmi. Et s'il est rouge, vous avez gagné. C'est cette probabilité. D'ailleurs, en physique, on dit une probabilité moins grande que 10 puissance moins 20 est un événement qui n'apparaît pas dans notre monde. Donc, en fait, c'est déjà clair que ça ne marche pas. Alors, on fait l'essai. Vous prenez peut-être votre avion. Vous allez jusqu'au Tadjikistan, vous descendez à Dushanbe, vous allez à la rue Tashmassor, derrière l'imprimerie, vous mettez vos mains dedans, c'est noir. Ah oui, c'est logique, parce que moi j'ai caché la fourmi rouge à Jérusalem de l'ouest, à la rue des prophètes, derrière la maison de l'église juive messianique. Mais il faut là encore ajouter, pour être vraiment sérieux, cette formule que j'ai utilisée est valable en fait pour des événements indépendants. Et bien sûr, dans les prophéties, il y a des dépendances. Mais puisque nous comptons ici avec une probabilité de 50%, nous sommes du côté absolument sûr. Oui, par exemple, dans Daniel. Bien sûr, il a des dépendances. Une prophétie en Daniel 5 peut se réaliser seulement après l'accomplissement des prophéties du verset 4. Mais avec ça, ça devient d'ailleurs encore moins probable. Si la suite doit aussi être correcte, c'est encore plus difficile que simplement dire un événement indépendant. Alors, puisque nous comptons ici avec une probabilité de 50%, nous sommes du côté absolument sûr, même si les dépendances qui existent partiellement ne sont pas prises en compte séparément. Parce que ça deviendrait excessivement compliqué. Mais maintenant, imaginons que tout l'univers connu, avec un rayon de 15 milliards d'années-lumière, pas une année-lumière, ça veut dire une distance où la lumière théoriquement devrait voyager pendant tout un an avec une vitesse de 300 000 km par seconde, n'est-ce pas? Alors, imaginons que tout l'univers connu, avec un rayon de 15 milliards d'années-lumière, est rempli de fourmis noires. Il s'y trouve une fourmi rouge. Le fait de tirer au hasard la fourmi rouge avec une unique tentative correspond à l'accomplissement par hasard de 288 prophéties, avec une probabilité supposée de 50%. Mais nous avons une plus grande liste, n'est-ce pas? Imaginons qu'il y ait autant d'univers qu'il y a de fourmis noires ayant place dans un univers. Quelque part, dans un de ces univers, se trouve une fourmi rouge. Le fait de tirer au hasard la fourmi rouge avec une unique tentative correspond à l'accomplissement par hasard de 578 prophéties avec une probabilité supposée de 50%. Alors, on peut prouver que c'est absolument impossible que l'accomplissement soit par le hasard. Donc, c'est une preuve que Dieu existe. Et finalement, on peut dire « ta parole est la vérité ». Et nous ne trouvons pas de telles prophéties dans les autres religions. Et faites l'essai. Vous allez chez quelqu'un qui est hindou, et tout près de chez nous, d'ailleurs, il y a un temple hindou. Alors, on pourrait aller à Kretzenbach et demander, est-ce que vous pourriez me donner une liste de 100 prophéties accomplies dans les écrits des hindous? Vous n'allez pas recevoir cette liste. Mais vous pouvez faire l'essai, toujours. Et vous allez vers un bouddhiste et vous demandez aussi une liste de 100. N'est-ce pas? Je vous donne déjà la liste des 200 de Daniel, dans le livre qui va apparaître, et des 160 dans le prochain livre que je vais éditer. Et là, je vais produire des listes à la fin des chapitres où on peut tout de suite trouver chaque prophétie. Verset biblique, contenu et l'accomplissement. Et alors, vous allez vers un musulman et vous demandez, mais j'aimerais une liste de 150 prophéties accomplies du Coran. Vous n'allez jamais recevoir. Seulement dans la Bible. Donc, on peut prouver que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité et que c'est vraiment le Dieu éternel qui est derrière cette parole. N'est-ce pas? Je connais une personne croyante qui est mariée avec une femme bouddhiste. Et elle fait des expériences occultes, terribles. Elle a des visions, etc. Donc, elle est convaincue de sa religion. Et alors, là, je dois dire, mais cette religion, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a, selon la Bible, des vrais esprits qui sont derrière cette religion, comme le dit 1 Corinthiens 10, verset 20. Et ce sont des esprits qui sont plus puissants que l'homme. Mais selon la Bible, les esprits, les anges, ne sont aussi soumis à l'espace et au temps. N'est-ce pas? En Job 1, Satan vient devant le trône de Dieu. Et Dieu dit, « D'où est-ce que tu viens ?» Et il dit, « Je viens de mes voyages sur la terre. » Donc, il n'est pas omniprésent. Lorsque le diable est en Inde, il n'est pas en même temps en Suisse. Mais bien sûr, selon la Bible, il a les démons partout. C'est pour ça, son mal est partout. Mais selon la Bible, aussi les esprits sont soumis à l'espace et au temps. En Daniel 10, un ange arrive vers Daniel et en quelque sorte, on peut dire, il s'excuse de ne pas être venu déjà il y a 3 semaines, lorsque Daniel avait commencé à prier. Et il dit que pour quelle raison il était freiné de venir. Mais cela prouve que les anges, les esprits sont aussi soumis. Seulement l'Éternel, Yahvé, et omniprésent et vraiment éternel, au-dessus du temps et de l'espace. Et ainsi, par la prophétie accomplie, nous pouvons prouver que l'Esprit qui est derrière la Bible, c'est le Dieu éternel, et non pas n'importe quelle force cosmique comme dans d'autres religions. On peut connaître le seul vrai Dieu, mais pas seulement connaître, cette même parole nous explique que nous pouvons nous approcher de Dieu, même que nous sommes des pécheurs et que nous avons vécu contre les commandements de Dieu. Parce que cette même parole nous dit, si nous regrettons nos péchés devant Dieu, et si nous confessons nos péchés dans la prière à Dieu, et si nous remercions que Jésus-Christ a subi le jugement juste de Dieu sur mes péchés personnels, eh bien Dieu nous pardonne complètement et nous pouvons entrer en communion avec ce Dieu éternel. Et il est merveilleux de lire dans le psaume 90 une prière de Moïse écrite pendant le voyage dans le désert où toute une génération est mort. Donc chaque jour, ils étaient confrontés à la mort. Et là, Moïse parle du Dieu éternel, qui est de l'éternité jusqu'en éternité. Et il dit que l'Éternel est notre demeure de génération en génération. N'est-ce pas? À 52 ans, je réalise combien vite la vie passe. C'est incroyable. C'est pas encore si longtemps, et j'avais encore 20 ans. C'est dépassé. Mais c'est merveilleux quand on réalise combien nous sommes soumis à l'espace et au temps, de pouvoir connaître l'Éternel et de pouvoir dire, tu es notre habitation de génération en génération. Et on sait que ce n'est pas la dernière chose ici sur terre. La parole prophétique nous ouvre toute une réalité merveilleuse pour l'avenir dans la gloire de Dieu. Et c'est merveilleux de connaître vraiment l'Éternel, ce Dieu qui s'est révélé et qu'on peut connaître par la prophétie accomplie, une preuve pour l'existence de Dieu. Merci.